I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les Pistons et le Mag, le rendez-vous du mercredi, le rendez-vous des vrais passionnés de Formule 1, mais de sport automobile plus largement. Et vous allez être gâtés aujourd'hui avec ce rendez-vous exceptionnel. On ne va pas vraiment débattre, beaucoup de blabla, d'enflammades et de grandes déclarations. Mais on va parler de sport automobile tranquillement. Et on va parler d'un autre temps avec Hamza Rahmani, avec Brice Germain. Comment ça va les gars depuis lundi?
Très bien, écoute.
Très bien.
Mon coup de soleil n'est pas
ça
encore parti.
Ça va beaucoup mieux, je trouve.
Non. J'ai mis beaucoup de biafine lundi soir et mardi soir.
Incroyable. On rappelle, Brice, qui était du côté du Grand Prix de France historique. T'as pris ton bain de foule, on peut le dire.
Kevida.
Kevida.
Ouais. Kevida. Non, mais enfin, c'est...
Les gens étaient gentils avec toi.
Tous.
Et avec les pistonnés.
Oui, oui.
Bienveillants.
Bah, tu sais, la malveillance, c'est sur Internet.
Ouais, ouais, c'est pas arrivé dans la rue pour certains.
Hein. Oui.
Demande à
Finkielkraut.
À Finkielkraut, c'est exactement l'exemple que je pensais.
C'est tout.
Ça a commencé.
Ah oui, d'accord, on parle de sport auto, donc on a dit. non, mais enfin, c'était très bien. Après, franchement, le public était top. Oh, il y avait un monde. Mm-hmm. Il y a 3 ans, il y avait peut-être 10-15 000 personnes. Là, je crois que sur le week-end, on a 80 000.
Ah oui, d'accord, ok.
37 000 samedi, 24 000. Un truc comme ça. 24 000 vendredi. Dimanche, j'ai pas les chiffres. C'était fou. Donc vraiment trop bien. Et puis bon, bah,
t'as croisé du beau monde quand même. J'ai vu du Gerhard Berger, du Jean Alési,
du Alain Prost,
du
Dorian Boccolacci, bien sûr. Dorian, je l'ai pas croisé, Dorian.
D'accord.
Et puis après, j'ai vu les auteurs qu'on connaît, Thomas Volok.
Attends,
Daniel
Ortega. Faut qu'on en parle quand même. De ces
alors,
super bouquins.
Oui, parce que du coup.
T'as des cadeaux pour nous.
J'ai des cadeaux pour vous.
Je suis
allé les voir. Puis tu sais, ils nous ont déjà envoyé les bouquins pour qu'on les fasse gagner.
Oui. Il faut que je vous fasse gagner le bouquin de Gaël d'ailleurs. Je suis désolé.
Voilà, j'ai peut-être mis un pavé dans la mare, mais.
J'ai vraiment un problème.
C'est la spéciale
j'ai
Manu,
vraiment
ça.
Un problème avec ça. Ouais.
Il est chez lui, il a dit on va vous faire gagner, puis il a une bibliothèque.
Non,
malade chez lui.
Ils sont tous là, regarde.
On les voit. Bah, venez les chercher. Non, mais du coup, je suis allé les voir. Et puis, ils m'ont demandé si j'avais leurs bouquins. Je dis bah oui, parce que du coup, on les a reçus, ça machin. Il dit mais attends, celui-là, tu l'as pas et ça machin. Donc du coup Loïc Schoenvass qui a fait une biographie de Fernando Alonso, mais il a fait une version de poche réactualisée. Il m'en a donné deux. Alors il a bien compris que c'était pas pour moi. Donc du coup on a
on se demande pourquoi, tiens.
On attend la biographie de Kimi Räikkönen, hein, qui n'existe pas. Peut-être que je vais l'écrire moi, tiens, ça ira bien. Du coup le bouquin de Loïc pour Hamza avec la petite dédicace, regardez, il est gentil.
Oh,
Loïc,
c'est très gentil, tiens, je vais la lire.
C'est, alors je vais la lire maintenant à l'antenne. Tu la lis, c'est pas ce qui est écrit, hein.
Ah bah tu sais, moi j'ai vu ce qu'avait écrit, je crois, tout à l'heure.
Si ça, c'est pour Manu, je vous montre, hein. Pas de tricherie, hein.
Si je peux me permettre, je crois savoir ce qu'il a dit. Regarde, il a mis pour mon Manu un livre que tu pourrais prêter à Brice Germain car ça lui permettrait d'éveiller sa culture F1. Voilà.
Tu sais que je l'ai pas lu et je me dis il y a moyen qu'il ait vraiment écrit ça.
Non mais parce que là il y a un petit mot pour notre ami Brice.
Ah bon,
un petit mot pour accompagner cette version optimisée de la vie de Lando, pour ton professionnalisme au quotidien et merci aussi de défendre Monsieur Alonso à chaque fois face à Brice.
Et
il conclut par amitié, Loïc. Je te remercie, Loïc.
Ouais,
merci beaucoup. Vraiment,
c'est sorti à talent poche, hein. Juste, je le dis, 9,60€. Ça vous fait plaisir. Les vacances arrivent vite. Il y a une très très belle histoire. C'est très très bien fourni. Bravo, Loïc.
J'aurais vraiment écrit cette biographie de Kimi. C'est bon, c'est moi qui m'en occupe. J'appelle talent édition.
En plus, il y a des belles photos.
Et du coup, attends, n'oublie pas Gaël.
Oui.
N'oublie pas Gaël. Le bouquin de Gaël sur Max Verstappen.
Ouais. Là encore, une biographie mise à jour.
Qu'on avait reçu. Gaël m'a dit mais attends, Hamza, il l'a pas.
Belle imitation.
Voilà.
Magnifique.
Et pour Hamza, c'est pas pour moi. Moi, je l'ai à la maison déjà.
Merci beaucoup, Brice, et merci beaucoup, Gaël.
Alors, pour info, Gaël, parce qu'on en a parlé
de
son...
Gaël, il a mis ses tripes dans ce bouquin, je voulais le dire, parce que j'ai commencé à le lire, il est vraiment très très bien. C'est une réédition de, du premier opus de Ortelli et Wallock. Et franchement, il y a mis vraiment ses tripes.
Et Gaël, tu sais, on a fait la promo de la dernière émission.
Oui, oui, oui.
Et il a Octogone. Isolé, il a isolé sur X.
Oui.
Et il m'a dit Octogone. Et je vais le voir et il me dit, bon alors du coup, on l'annule l'Octogone ou pas? Et tu sais, je savais même pas s'il était sérieux ou pas. Regardez, j'ai celui qui avait tapé déjà, donc j'étais un petit peu pas bien.
Puis rosé.
Non, pas sur site. Après, mais pas sur site. Et du coup, je lui ai dit, non, on peut annuler. Attends, Gaël, on est tous là pour la même passion.
C'est la famille.
Mais j'ai quand même pris son adresse au cas où ça recommence.
Et on signale.
T'embrasses, Gaël.
Puisque t'as vu Thomas Wallock qui sort un bouquin sur Senna.
Avec Daniel Ortelli,
en effet.
Voilà
pour les sorties livres.
Merci messieurs et merci Brice.
C'est Noël, hein. C'est Noël avant l'heure.
J'ai été colissimo.
C'est Noël avant l'heure.
Parce que j'avais plus de place dans les valises. J'en avais 6 des bouquins.
On parlait, moi c'est vrai que j'aime bien toujours quand on parle des bouquins dans les pistonnets. On parlait du bouquin donc, de Thomas Wallock et Daniel Ortelli sur Ayrton Senna. Il y a une BD aussi de Lionel Froissart sur Ayrton Senna. En fait, c'est que des scénettes vécues par Lionel Froissart et illustrées justement en BD. Je crois que c'est sorti aux éditions Glénat. J'ai peur de dire une bêtise, c'est extraordinaire. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Voilà. On referme ce passage bouquin. On dira pas qu'on n'est pas une émission d'un télo. Des fois, on a l'impression d'être Bernard Pivot dans le rendez-vous du.
Ouais, des
du
fois, mercredi. On est caniveau aussi. Hein.
C'est vrai aussi. C'est vrai. C'est faut l'admettre. Quand c'est vrai. C'est vrai. Sur la vignette Stroll qui, j'imagine, vous a fait réagir. Les gars, on va commencer ce mag. Avant de parler, j'oublie de vous le dire, mais on a une excellente interview de René Arnoux qui arrive tout à l'heure. Il y aura sans doute même un petit parfum de « Est-ce que la F1, c'était mieux avant ?» Parce que ça a été un peu le fil conducteur de l'entretien réalisé par Brice avec René Arnoux. Un superbe entretien sera retrouvé tout à l'heure. Mais avant cela, on revient à l'actualité, les gars. Motorsport.com a fait des révélations. C'était dimanche après la course. Les révélations de motorsport.com, et on pourrait élargir le barème de points jusqu'à la P12. Volonté de modifier donc un barème qui est mis en place depuis 2010. On rappelle des points pour les pilotes arrivant de la première jusqu'à la 10e place. Avant, c'était du premier au 8e. En 91, on avait même mis en place le barème de premier à 6e. Là, ce serait de premier jusqu'à 12e. Le nombre de points distribués resterait inchangé pour les premiers, c'est-à-dire de la première à la 10e place. Alors, de la première à 7e place, pardon. On ne changerait pas l'attribution des points, toujours 25 points notamment pour la victoire. C'est derrière que ça changerait un peu, je vous montrerai le détail. Et puis, cette idée est née quand même, il faut le dire, sous l'impulsion des petites écuries. Alors, on n'a pas d'informations précises concernant ces petites écuries. Est-ce qu'Alpine est derrière tout ça? Je vous laisserai vous exprimer, bien sûr, sur le sujet. Et puis...
T'en rates pas une.
Non, mais je suis désolé, mais bon.
J'avais dit en off.
J'avais... Oui, c'est vrai, pareil. Enfin, je t'ai volé ta blague, t'as raison. Mais on y a tous pensé. Et cette décision, elle pourrait être entérinée normalement dans les jours qui viennent. Il y a une commission F1 qui va se réunir là dans les jours qui viennent. La commission F1, c'est la conurbation des directeurs d'écuries, des représentants de la Formula 1 et de Liberty Media, et puis bien sûr du directoire de la FIA qui doivent entériner ce système. On le regarde, ce système, justement, avec ce petit habillage qu'on vous a préparé. 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième, 12 pour le quatrième, 10 pour le cinquième, 8 pour le sixième, 6 pour le septième. Ça ne change pas. C'est derrière que ça change. Distribution entre la huitième et la douzième place. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'il faut changer cette attribution? Est-ce que ça vous plaît?
Non. Non, ça ne me plaît pas parce que c'est encore la volonté de... À partir du moment où aujourd'hui on est sur une F1 à 20 pilotes sur la grille de départ, je trouve déjà que donner des points à plus de 50%, c'est trop parce que je trouve
déjà
que ça dévalorise... Oui, déjà 50% c'est trop. Ça dévalorise déjà la difficulté que c'est de marquer un point en Formule 1. Voilà, encore une fois, on en a parlé en fin de saison dernière lorsque l'on avait fait l'émission « Quelle est votre F1 entre guillemets de rêve ?» si vous aviez les commandes et les clés. Je trouve déjà que le barème aujourd'hui
est trop large.
Je suis pas
Il
fan,
est permissif. Hein.
Parce que déjà trop large, et surtout moi ce qui m'agace, c'est l'écart de points entre le premier et le deuxième. Mmh. En fait, on valorise celui qui va gagner plutôt que celui qui sera le plus régulier. Or pour moi, un champion du monde à la fin... ou un pilote classé à la meilleure position qu'un autre, c'est pas forcément celui qui gagne le plus ou qui fait le plus de podiums, c'est celui qui est le plus régulier dans son championnat à lui, pour la première place, pour la septième place, peu importe. Et aujourd'hui, oui, effectivement, les écarts sont très resserrés. On le dit, on le répète. Oui, effectivement, pour le flop 5 entre guillemets, donc Alpine, Williams, Sauber, Red, enfin Racing Bulls et il me manque une écurie qui est
AS ouais, pardon.
Donc pour ces 5 équipes, oui, effectivement, il faut compter sur une défaillance devant, on l'a déjà dit lors de l'émission ce lundi, il faut compter sur une défaillance devant pour espérer marquer des points. Mais c'est le sport. Moi, à mes yeux, je trouve que le système aujourd'hui, dans une F1 aussi resserrée, je rappelle aussi que quand tu es à égalité de points, bah, on va prendre par exemple aujourd'hui Ocon, grâce à son 11e, oui, il a fini 11e en Chine, grâce à sa 11e place, Ocon a gagné quelques positions tout en étant à 0 points, que grâce à la 11e place d'Esteban Ocon, Alpine est passé de la 10e à la 9e place au championnat constructeur, il y a déjà aujourd'hui des moyens de départager les écuries les plus mauvaises. C'est selon le nombre de meilleurs résultats. Si tu as par exemple deux pilotes qui font P11, combien de P11 tu as fait par exemple? Je trouve aujourd'hui que le système, déjà je ne suis pas fan de donner des points aux 10 premiers, mais alors l'élargir aux 12 premiers, non.
Moi, je ne comprends pas, Brice, pourquoi les petites écuries veulent que l'attribution soit plus large?
Les petites?
Ouais.
Mais encore une fois, c'est un intérêt privé qui veut changer le règlement. Juste pas, je trouve que ça prouve une époque. Ça prouve une époque qu'on peut tout changer si on a la volonté de le faire.
Faut donner des cadeaux à tous les gosses, même ceux dont c'est pas l'anniversaire. Quoi,
après, ça se trouve, j'étais pas aussi assidu que ça, mais il me semble pas avoir souvenir de voir Arrows réclamer des points pour la 20e place. Enfin, tu vois, j'exagère le trait, mais il y avait des points pour les 6 premiers et Arrows terminait avec 0 points et basta. Et au final, je trouve que c'est un sport qui devrait faire sa sélection par le haut plutôt que par le bas, en fait. La sélection par le bas, elle est faite parce qu'il y a beaucoup plus de grands prix qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de points attribués qu'avant, et qu'aujourd'hui, on récompense tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, la course est gagnée. Si on se fait une réjouissance de finir dixième, ben c'est plus la course, en fait. C'est un calcul, c'est un calcul d'apothicaire. Si tu as à la fin de saison un Guan Yu Zhou qui termine avec 47 points, parce qu'il a mis... Parce, je te dis, je fais un système vraiment extrémiste. Hein. Mais parce qu'il a mis 2 points par-ci, 4 points par-là, mais au final, tu l'as jamais vu en course... Alors oui, mathématiquement, tu vas bien mieux classer les pilotes. Mais je trouve qu'un point, c'est sacré. Un point, c'est la FIA qui valide une performance. Et que bah, du coup, si tu en attribues à tir larigot, ça n'a plus de valeur. Comme les Grands Prix.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'à l'époque...
Mais j'en ai marre, on fait toujours les réacs.
C'est vrai. Mais peut-être parce qu'on a connu aussi cette F1 d'avant, sans dire que c'était mieux avant. C'est un peu le thème, le fil rouge un peu de cette émission d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai souvenir de la saison 98 où Prost Grand Prix est vraiment dans la panacée et dans la grande difficulté, où Jarno Trulli va arracher la 6e place, donc un point à l'époque, à Spa, dans un Grand Prix de déluge.
Ça, c'est une perf.
Et ça, c'était une perf.
Jules Bianchi, Monaco.
Exactement. Jules Bianchi,
on
Monaco.
On s'en souvient aujourd'hui.
Tout à fait.
Mais c'est le 9e.
Et c'était le système à
oui, mais quand même.
Mais voilà, complètement. Non, mais t'as raison. Et c'est vrai que là, si tu commences à donner des points à 12 pilotes sur 20, bah, ça veut dire qu'en fait, ouais, si t'as pas de points, t'es vraiment
pas bon.
Est
pénalisé.
Tu parlais de la saison, de la saison 98. Dans le train pour aller au Grand Prix de France historique, je me suis maté Belgique 98.
Ouais, bah voilà.
Et un truc qui m'a frappé. Parce
le podium de Jean Alési dont on parle pas assez.
Oui, mais je pensais pas à ça. Un truc qui m'a frappé.
La victoire de Desmonil, bah oui, bien sûr.
Chier, moi.
Pardon.
Un truc m'a frappé, c'est qu'au moment où du tour de formation, j'ai le classement des pilotes.
Ouais.
On est en Belgique, on est pour début de saison.
Non.
On est mi-saison. Et t'as. Alors, j'ai plus les chiffres, hein, désolé. Mais t'as Hakkinen en tête, championnat, devant Michael Schumacher, je crois. 40 points et quelques chacun.
Ça.
Et derrière, en 3e position ou 4e position, ça tombe tout à 17 ou 14 points. Et en fait, bah, ça reflète vachement la saison quand même, tu vois. C'est des petits points, mais qui à un moment donné montrent ce côté. Eh bah, lui, c'est le 3e, bah, 17. Ouais. Il est loin, mais c'est le 3e. T'es 3e, gros.
Ouais,
t'es pas premier, t'es pas deuxième, tu vois. C'est pas. Ah, peut-être que parce que s'ils amènent des améliorations à coup de 25 points par course, au bout de 100 points, ils pourront remonter sur le deuxième. Non, non, t'as 17 points à la mi-saison. Il reste 6 grands prix parce que c'est la mi-saison. Et des 40 points des autres, là, va falloir que tu gagnes 4 fois pour les rattraper. Montre-nous ce que tu vaux, va falloir que tu gagnes 4 fois. Et maintenant, là, 150 points de retard, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Valtteri Bottas, on se disait à chaque fois mi-saison, il a 90 points de retard. Oh, c'est encore jouable.
Ça t'offre des situations. En 2016, Nico Rosberg se contente de terminer deuxième sur les 4 ou 5 dernières courses.
Ah oui, t'as raison.
Tu vois, si on a ce même système déjà à 25 points, qui, je le répète, est déjà extrêmement critiquable, ce système à 25 points, si tu l'amènes en 2007. Je ne sais pas qui termine champion, mais le championnat est fini bien avant Interlagos. Donc
ah oui, ça oui.
C'est sur le suspense jusqu'à la fin, ça t'emmène encore une fois à mettre 10-8 par exemple pour, entre le premier et le deuxième. Il y a une part de OK, tu valorises la victoire parce qu'il y a deux points et pas un point d'écart, mais mine de rien, attention, parce que c'est la régularité. Alors ça change rien aujourd'hui, Verstappen il écrase tout, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve anormal qu'on accorde autant de points aujourd'hui, par exemple au premier par rapport au quatrième, et que l'on cherche. J'ai entendu par exemple, je regardais la course sur la F1 TV, donc avec les commentaires Sky Sport, donc David Croft et Nico Rosberg. Croft, lui, il est même allé jusqu'à proposer l'idée de un point pour chaque pilote qui termine la course, tu vois. Et puis après, s'il y en a 15 qui terminent, ça fait 1, 2, 3, etc. Et je sais que Nico Rosberg, j'ai beaucoup de... Mais Rosberg, sur ce point, il est extrêmement conservateur. Et il est aussi dans cet état d'esprit qu'un point se mérite. Et la 12e place, bah, si Alpine aujourd'hui veut terminer 12e parce que Ocon aurait eu un point en Chine, essaye de réaliser une meilleure voiture. Aujourd'hui, avec le budget de cap, on est en train de... pas tout standardiser, mais de faire en sorte justement de réduire les inégalités pour permettre à n'importe quelle écurie de pouvoir développer une bonne voiture, limiter le budget pour ne pas permettre à Red Bull de développer bien plus que Haas. Il va falloir développer mieux, mais pas plus. Donc on est en train justement de travailler sur cet aspect inégalitaire entre les écuries. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin quand même.
Je suis d'accord. Il y a juste une chose sur laquelle je vais te faire réagir, Hamza.
Je suis bien tolérant, mais il y a des limites.
Ça faisait longtemps. Sur le débrief de lundi, on a parlé du casse-croll. Du casse-croll. Stroll.
le norvégien.
Le norvégien. Du casse-troll. Et on parlait des fameux coups d'éclat qu'on ne voyait plus. Et tu insistais sur l'aspect régularité. Le fait de donner des points jusqu'à la 12e place, c'est quelque part récompenser la régularité. Parce que c'est ce dont se plaignent les petites écuries. Elles disent aujourd'hui, on l'a vu notamment sur la fin de saison dernière avec le retour de, à l'époque, comment elle s'appelait cette écurie d'ailleurs, Alpha Tauri.
Je m'attendais à un truc vieux.
Ouais, d'Alpha Tauri.
Standard, tu sais,
sur la deuxième partie de saison d'Alpha Tauri, il y a eu 2-3 coups d'éclat qui ont permis de mettre beaucoup de points et donc de remonter. Et ça ne montrait pas justement l'aspect, la régularité justement sur cette saison.
Tiens donc.
Peut-être que là, on reviendrait à une mise en valeur de la régularité avec 12.
Je vais taper là où ça fait mal, c'est-à-dire que tout le monde se dit qu'aujourd'hui Max Verstappen a déjà gagné le championnat du monde. Je vais vous donner le classement du championnat du monde de Formule 1 2024 avec les points, avec le système de points de...
On était 1 à 6 de 1 en 2024.
Moi, je parle de 1 à 8 là.
Ah, c'était 1 à 8, oui, t'as raison, excuse-moi. Ouais. Oui, t'as raison.
Je te parle de 1 à 8. Max Verstappen, premier, sans blague, 40 points.
Ok.
Parce que j'enlève sprint et meilleur tour en course,
bien sûr. Bien sûr.
Ah oui,
Max Verstappen, 40 points. Sergio Perez, 36 points.
Ah ouais.
Oui,
bien sûr. C'est un petit peu plus serré.
Charles Leclerc, 34 points. 6 points d'écart.
Tu vois que l'abandon coûte cher.
Voilà.
Exactement.
Mais oui, la régularité.
Rappelle-toi, il y a eu tellement d'exemples, mais Schumacher, par exemple, c'est quoi, 2006, c'est la dernière saison.
Oui.
L'abandon de Schumacher à Suzuka.
Suzuka, ouais.
Il est dramatique, ça met fin à ses chances.
Ça tue tout.
Ouais. L'abandon te tue une possible lutte pour le titre.
Mais là, tu vois, je vous parle de quelque chose, puisque donc Charles...
C'est vrai que c'est pas mal quand t'inverses comme ça.
Tu vois, Charles Leclerc prend 12 points à Bahreïn. C'est donc une quatrième place, ça fait 5 points. Il prend 16 points en Arabie Saoudite. C'est donc une troisième place avec primée au meilleur tour en course. Ça fait donc 6 points, ça fait 11. Derrière, il prend 19 points en Australie, donc 18 points. Deuxième place, ça fait 8 points. 8 points plus 11, 19. Ensuite, il fait une quatrième place, donc c'est 5 points, ça fait 24. Plus derrière un podium, j'ai dit une bêtise, excuse-moi, 24 et 5, 29, pardon, c'est 29 points, pas 34. Mais Perez, c'était bien 34, voilà. Ça, c'est beaucoup plus faible que l'écart qu'a Raikkonen a sur Hamilton, deux grands prix avant la fin. Raikkonen est champion du monde. Ce qui veut dire que Hamilton, milieu de saison, ou fin, enfin, deux tiers de saison 2007, il est champion. C'est fini.
C'est fini. Mais on n'a pas la saison historique qu'on a vécue.
Donc, est-ce que, quand tu prends Vettel 2010, 11, 12, non, ouais, pff, allez, 10, non, 11, 13, allez, 11, 13. Derrière, tu as toute l'époque Hamilton, hors 2016, plus l'époque Verstappen, on a grosso modo 10, 12 saisons de domination de fou, où le titre ne se joue pas à dernière course, à part 2007, 2021 et 2012 et 2010. 4 saisons depuis 14, ouais, 14 grands prix de 14 années, pardon, de nouvelles réglementations. Je pense effectivement que c'est assez parlant sur le fait que la prime à la victoire, notamment dans une période justement où tu as quelqu'un qui est très fort, elle est d'une violence sans nom, statistiquement parlant, et du coup aussi pour l'intérêt de la discipline. Donc je comprends les petites écuries qui parlent comme ça, mais on ne peut pas se permettre de penser pour l'intérêt du bas. On doit penser l'intérêt
on
du
fait
global.
Que ça. Nivellement par le
mais oui, on ne fait que ça. On doit penser l'intérêt du global, et l'intérêt du global, c'est pousser tout vers le haut normalement. Enfin, je sais pas. Hein, a priori, il me semble qu'on n'est pas dans une société qui ne fait que reculer dans sa volonté, je veux dire.
Ouais.
Après,
ceci est un autre débat.
Dans les faits, c'est autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire.
Exactement. Voilà, en tout cas, les gars, pour cette news, on avait dit qu'on ferait pas de débat là-dessus, mais on a commencé à débattre. Et d'ailleurs, il y a un débat, je pense qu'il va falloir faire absolument très rapidement, qui ressemble peut-être à ce qu'on a pu faire par le passé. Mais honnêtement, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres disciplines, moi, je crois que niveau règlement, on peut aller piocher dans certaines choses. Je veux pas lancer tout de suite comme ça sur le feu, le débat de la BOP. Mais j'avoue que plus je m'intéresse au WEC et plus je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Ça peut vous paraître aberrant chez vous, commentez, donnez-nous votre avis. Mais on en parlera, on fera une belle émission là-dessus.
Un mot très rapide.
Il y a plein de choses à dire.
J'entends aussi l'argument de ceux qui vont te dire, enfin non, je ne l'entends pas justement, l'argument de ceux qui vont te dire, ouais, mais si par exemple le top 12 a des points, du coup, la lutte pour la 12e place
devient intérêt.
Devient intéressante et toi, en tant que spectateur.
Là où c'est un peu plus serré.
Moi, sincèrement, je n'ai pas besoin que l'on attribue des points, je n'ai pas besoin que l'on donne une récompense à un pilote pour m'intéresser à une lutte. Stroll, Magnussen,
ouais, c'est vrai.
Chine, ça se battait pour la 16e et 17e place, ou 15e et 16e.
C'était cool.
Moi, je me suis régalé à regarder ça.
Et puis, la 11e a déjà de l'impact par rapport au fait que si tu ne mets pas de points, en tous les cas, de toute façon, elle va venir récompenser au classement ton...
Et puis, accessoirement, moi, je me désintéresse totalement de la récompense. En fait, c'est la bataille qui m'intéresse. Ouais. C'est la lutte. Est-ce que pour la lutte, je sais pas, pour la 13e place, parce qu'il n'y a pas d'abandon, la stratégie à 3 arrêts de Tsunoda va fonctionner par rapport à la stratégie à 2 arrêts de Nico Hülkenberg. J'en sais rien. Il n'y a pas besoin d'avoir cet intérêt sportif. Oui, ok, les voitures aujourd'hui sont beaucoup plus fiables. Du coup, tu as moins d'abandon. Mais c'est le jeu, écoute.
Exactement. Tu vis dans une société où maintenant, quand c'est l'anniversaire d'un gosse, on donne des cadeaux à tout le monde. Donc, comment veux-tu que les petites écuries ne réclament pas, elles aussi, leurs cadeaux ?
Pour le coup de gueule.
Énervé, engagé aujourd'hui. C'est le thème. Non, c'est une blague.
Attention, parce que là on commence à basculer.
Oui, c'est vrai. Vous êtes sur Sud Radio, bienvenue.
Non, c'est une blague.
Je veux dire, Pascal Pro. C'est une belle blague. Ouais, non. Si on peut éviter de leur faire de la pub à eux tous, ouais, ça nous arrange.
T'as raison.
Parlons de quelqu'un qui est nostalgique maintenant dans cette émission, de quelqu'un qui est nostalgique dans quelques instants, René Arnoux. Non, bah oui, nostalgique d'une certaine Formule 1, René Arnoux en entretien.
Fouleur TV, quoi.
Mais juste avant les gars, je voulais revenir à une excellente émission Pole Position qui a eu lieu samedi avec un plateau inédit. Joseph Ruiz, l'excellent Joseph Ruiz, était à la présentation, il était énorme. Il y avait aussi également notre ami Antistar qui accompagnait un vieille connaissance de Webedia, qui accompagnait l'excellent Jérém, bien sûr, F1 à la loupe. Et ils ont parlé justement de la re-signature de Fernando Alonso. Peu de gens ont vu cette vidéo qu'on a traité, nous. Je parle pas de celle de Pole Position, le précédent Mac. Peu de gens ont vu cette vidéo parce que, pour rien vous cacher, elle a été démonétisée parce que on a balancé un petit teaser sur le Grand Prix historique avec qui on est partenaire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, elle a été démonétisée. Je sais que vous êtes très peu à l'avoir vue, mais elle est pourtant très intéressante. Depuis la vidéo sur les choix que devait faire Fernando Alonso, on a eu l'officialisation de la prolongation de Fernando Alonso chez Aston Martin. Jérémy nous disait ceci et je trouvais ça à contre-courant avec tout ce qu'il a pu nous dire jusqu'à présent. C'est une belle ode, on l'écoute tout de suite.
C'est un pilote envers lequel j'ai été extrêmement critique, j'ai toujours été très critique, notamment sur sa gestion de carrière. Je trouve que c'est un énorme pilote de Formule 1, mais que c'est un piètre homme d'équipe à la base. Et donc, pour moi, pour être un grand champion, il faut être les deux, il faut être un très grand pilote et un bon homme d'équipe. Le problème, c'est que Fernando Alonso, à bien des égards, n'a pas été, parce que dans les équipes dans lesquelles il évoluait, il y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup d'impatience, à mon humble avis, et tout ça a participé, je dis bien, hein, c'est pas à 100% de sa faute, mais ça a participé à distiller des ambiances un peu toxiques, et derrière, ça l'a précipité aussi à quitter ses projets sportifs un peu en déclin pour trouver refuge vers des projets sportifs de plus en plus secondaires, d'une certaine manière. Alors, on pourra parler de McLaren Honda, on pourra même parler de ces deux années de retraite, en tout cas ces deux années sabbatiques aussi, qui sont d'une certaine manière pour moi des projets secondaires, parce que s'il avait eu une voiture compétitive en 2018, jamais il serait parti de la Formule 1. Donc voilà, j'ai reproché toutes ces choses-là à Fernando Alonso, cette impatience et cet excès d'opportunisme. C'est pas pour lui reprocher l'inverse aujourd'hui.
Clairement, il fait le choix inverse.
Et moi, je le dis haut et fort pour le coup, je trouve ce choix absolument admirable. C'est la première fois que je suis, à titre personnel, impressionné et agréablement surpris par une décision de Fernando Alonso. Je trouve que c'est la décision la plus courageuse qu'il aurait pu prendre. Je trouve que je suis même persuadé, c'est peut-être un peu naïf, hein, certains diront que c'est naïf, mais je suis persuadé qu'il n'a pas signé chez Aston Martin, et je pense qu'on se rejoindra là-dessus, par défaut ou par dépit. Clairement il a pas. Signé parce que peut-être pour la première fois en 25 ans, donc en un quart de siècle, on est en présence d'un pilote, Fernando Alonso en l'occurrence, qui croit en un projet sportif et qui ne cherche pas seulement à gagner tout seul d'une certaine manière. Je pense vraiment qu'il a envie de continuer avec eux parce qu'il a envie fondamentalement de les voir gagner. Et ça, ça change toute la donne. Encore une fois, personnellement, je pense que c'est la première fois que je vois ça de son chef. Et que ça marche ou que ça marche pas, franchement, respect.
Voilà pour la déclaration d'amour de notre copain F1 à la loupe, notre Jerem national pour Fernando Alonso. Très rapidement, en 20 secondes, on l'avait dit juste avant la prolongation, il a fait le meilleur choix, Fernando Alonso, le choix du moyen long terme et le choix sans doute de la performance et du nouveau projet pour 2026.
Je vais faire une réponse cata, la piste répondra, mais en attendant, c'était un choix qui diffère par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé. En même temps, ça n'avait jamais marché, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ouais.
Hamza ?
On ne les verra pas ensemble.
Ouais. Ou seulement sur
attends,
ce plateau.
Attends, attends.
Seulement sur ce plateau.
Stroll, voyons.
Oui,
le max.
Oui, on rappelle que c'est la seule possibilité pour casser la clause du contrat de
Non, mais plus sérieusement, oui, non, mais je suis content de ce choix. Pour moi, c'était, encore une fois, d'un point de vue extérieur, je ne sais pas les tenants et les aboutissants, mais c'est le choix le plus safe, je pense, pour Alonso dans son avenir en Formule 1 à moyen terme, mine de rien. Et je préfère le voir triompher avec Aston que triompher avec Red Bull sur 2025 ou même avec Mercedes. Enfin, il a reconstruit une nouvelle.
C'est vrai.
Tu sais, Aston Martin, c'est quand même une marque historique dans le monde du sport automobile qui arrive en Formule 1. Il y a eu Vettel, maintenant il y a Alonso. Moi, j'aime bien cette histoire, effectivement.
Et puis il y a le projet Valkyrie en endurance. Hein. Ça serait cool de le voir sur un double programme. Enfin, en tout cas, de.
D'écarter Stroll et de le foutre. Ouais.
Oui, parce que
c'est plus ça le plan.
Non, mais le WEC n'est pas une poubelle, les gars. On va pas commencer à.
Ah, j'ai pas dit ça. Mais il y a plus souvent des mecs qui sont partis contre leur gré de la Formule 1 qui se retrouvent en WEC que l'inverse.
Ça, c'est sûr. Il y en a beaucoup.
Nick, on te salue.
Excellent. Excellentissime Nick De Vries. Il a enthousiasmé les 6 heures d'Imola. Incroyable. Franchement, Nick De Vries, il était incroyable. Il a gagné, il l'a emporté avec la Porsche 963, notamment. Qu'est-ce que je raconte? La Toyota. Fatigué, GR10. Fatigué, le mec. Pourtant, il est. Ouais. Les gars, on va passer à la deuxième grosse partie de cette émission qui nous plaît beaucoup. Brice, on l'a dit, on l'a répété, t'étais du côté du Grand Prix de France historique ce week-end au Castellet. Il y avait du beau monde, il y avait des gloires justement et bien du sport automobile français. Et tu as eu l'occasion de rencontrer René Arnoux. Explique-nous déjà un petit peu les coulisses de cet entretien qu'on va vivre dans quelques instants. Une mise en situation, on va dire, de cette rencontre avec un personnage que vous ne connaissez peut-être pas chez vous, mais qu'on va essayer de vous faire redécouvrir.
Alors, si vous pensez que il y a des salles qui sont prévues pour passer 20 minutes avec ces gens-là, c'est faux. Je pense que toute personne qui avait les mêmes accès que moi pouvait faire ce que j'ai fait, à savoir courir derrière René Arnoux, le choper au moment où il sort de la voiture avec sa combinaison en train de pousser sa Renault RS10, je crois.
C'est celle de 1980... Ah non, 79, la première victoire
là,
à Dijon.
Normalement, c'est celle du duel.
Ouais, c'est
avec
ça.
Villeneuve.
Ouais, exactement. Première victoire à Dijon.
Il est en train de la pousser. La ramener au garage, je rentre dans le garage et je dis René, excusez-moi, est-ce que vous avez 3 minutes? J'ai 3 minutes, pas de souci. Donc je vais pour lui poser des questions et vous allez voir, l'interview est en verticale. Oui. Ah, même si je pense qu'on l'aura croppé un petit peu.
On va trouver un truc d'ici.
Mais parce qu'à la base, je pensais pas avoir du temps, donc je pensais pour la mettre en story ou la mettre en reel. Et puis René Arnoux, quand on lui parle de sport automobile, eh ben ça dure ça dure tout seul. Il n'y a pas besoin de poser des questions folles. Il a juste envie d'en parler parce que c'est sa passion. Et la passion qu'il a dans ses yeux à lui, ça nourrit les nôtres et l'échange est nourri de ça. Mmh. Et vous allez voir. Moi, personnellement, j'ai pris un kiff monstrueux et bien plus que dans toute interview institutionnelle que j'ai pu faire avant.
Exactement. On rappelle le palmarès quand même de René Arnoux, les gars. C'est 162 victoires, 18 pole positions. Non, 162 courses.
Sinon, Lewis a encore un peu de taf quand même.
162 courses, 18 pole positions, 22 podiums, 7 victoires. On parle aussi également dans cette interview d'un temps où il y avait jusqu'à 7 pilotes et où les pilotes français en Formule 1 et où les pilotes français trustaient la moitié des pole positions. Bref, plongé dans cet univers, on regarde ça.
Et il jouait le titre en 83.
Il jouait le titre en 83, oui, tout à fait.
Justement, une époque où, bon, il y avait des abandons. Il termine, je crois, 10 points de Piquet. Il lutte avec Prost pour le titre. Enfin, c'est Arnoux, c'est un personnage important dans l'histoire.
Champion du monde français.
Dans l'histoire de la F1 en France, c'est quelqu'un.
Et il nous explique pourquoi c'est plus comme ça. Justement.
Eh ben, écoutez, justement, les gars, je crois qu'on a bien teasé la chose. René Arnoux et le pistonné Brice Germain, c'est tout de suite justement dans le mag.
Quelle émotion ça faisait d'être ici aujourd'hui pour vous sur cette Renault?
J'ai passé des moments extraordinaires ici.
82
plus qu'extraordinaire parce que je gagne. 3 pilotes français sur le podium. Très belle course, tout, la voiture marchait à merveille. Puis j'ai toujours aimé ce circuit, moi. Alors c'est dommage un peu parce que les S de la Verrie qui étaient à 2,80, ils les ont cassés. Et je me rappelle, j'ai fait tous les S de la Verrie à fond, 280, pendant le nombre de tours de la course. Et puis j'aimais bien, on a fait beaucoup d'essais privés aussi avec Renault. Et j'aimais bien tourner ici parce que c'est une piste qui, d'abord, il y a beaucoup de pilotage. Ça signe quand c'est à fond à 330. Et plus, c'est une piste qui demande beaucoup aux pneumatiques. Donc, ce qui fait qu'on arrive à vraiment travailler, à élaborer, à travailler vraiment sérieusement sur la voiture, sur les freins, les pneus, le moteur. Parce que le moteur, il n'y avait pas la chicane à une droite. Hein. C'était 330 tout le long. Donc, piste technique, sportive, et puis où on apprenait beaucoup de choses sur le plan technique avec les ingénieurs.
Ces voitures-là, est-ce que pour vous, c'est l'âge d'or, finalement, de ce sport?
Moi, je ne veux pas critiquer ce qui se passe en ce moment, mais je ne regarde pas. Mais je fais toujours mon analyse par rapport à d'autres personnes qui me disent « René, la Formule 1 est devenue ennuyeuse ». Donc, je regarde la moto parce que je trouve que c'est archi intéressant et ils se bagarrent vraiment entre eux. Maintenant, c'est vrai que la F1 est toujours un grand succès. Mais je trouve que c'est trop devenu un championnat du monde d'ingénierie et stratégie de course. Parce que maintenant, si vous n'avez pas la bonne voiture, vous ne pouvez pas gagner. Or, moi, si je partais en deuxième, même troisième ligne, j'étais pas trop affolé, je pouvais quand même gagner le Grand Prix si j'arrivais bien à régler ma voiture, mais maintenant ça c'est impossible.
C'était vraiment une question de feeling avec ces voitures, rapport pilote-voiture pour parler maintenant?
Oui, c'est toujours une question de feeling, mais maintenant. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'électronique qui masque beaucoup de problèmes, et donc on diminue beaucoup la conduite, hormis freiner, tourner, après la voiture gère beaucoup de paramètres à la place du pilote. Donc, ce qui fait que Verstappen est un très bon pilote. Hein, je mets pas Hamilton, Leclerc, Sainz sont des très bons pilotes. Mais il est certain qu'avec nos voitures, je ne sais pas ce qu'ils feraient.
Et qu'est-ce que vous feriez, vous, avec les leurs?
Ah, ça, le problème, c'est que je n'ai plus la capacité physique de le faire. Dans le sport, il y a une loi qui est très intransigeante, c'est l'âge. Donc, tout sport, qu'on fasse les Jeux Olympiques. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que la F1, c'est physique, très physique, et que si je vous emmène pendant 5 tours, vous allez me supplier d'arrêter. Et là, vous allez comprendre que c'est vraiment physique.
J'aimerais bien. Ça vous paraît loin ou c'était hier?
Ah ben, c'était tellement intense et fort que ça me paraît que c'était hier. Ouais, ouais. Et puis avec mon meilleur copain, c'était extraordinaire.
C'est vous qui reveniez sur lui, vous étiez...
Oui, moi je ne suis pas très bien parti parce qu'en plus, on avait quand même des gros soucis d'embrayage. On pouvait éventuellement griller l'embrayage. Ouais. Et donc, je suis mal parti. Ouais. Pas que volontairement, parce que je n'ai pas fait un grand départ, mais, ouais. mais aussi, je n'ai pas trop mis de gaz pour ne pas m'abîmer mon embrayage. Et puis après, j'ai remonté jusqu'au moment où bon, Gilles il avait des problèmes avec ses freins et ses pneumatiques. Moi, cinq tours avant la fin, j'avais des problèmes de d'essence, ouais. mon moteur coupait, pas partout, mais à la ligne droite des stands, il coupait complètement pendant une seconde ou deux. Donc je savais que j'étais un peu limite pour le coiffer sur la ligne d'arrivée. Malgré ça, j'ai tenté le tout pour le tout. Lui, il a fait pareil. Ouais. Et puis bon, il est arrivé deux, je suis arrivé trois, mais c'est avec mon meilleur copain et tout. Puis, vu notre connaissance, l'amitié qu'on avait, je savais qu'il n'allait pas me faire un tour de magie qui pouvait avoir des conséquences, et il savait aussi, donc c'est ce qui nous a permis d'arriver à un tel duel.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit avec Gilles à l'arrivée, après l'arrivée?
Ouais, on s'est serré la main sur le podium et on a éclaté de rire.
C'est vrai.
Alors que tout le monde pensait qu'on allait, on allait se taper dessus. Mais bon, les gens ne savaient pas à quel point on était amis et soudés. Quoi.
Et ce duel, on vous en parle plus souvent, même que chacune de vos victoires, j'imagine. Parce que ça a tellement marqué les esprits.
Je
ne
veux pas faire le malin, mais chaque fois que je sors, que ce soit en Italie, en France, ici, on m'en a parlé depuis que je suis arrivé. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est éternel, mais surtout que c'est encore présent, comme si c'était hier.
Et là, c'est
pour moi comme pour les autres.
Vous voyez aujourd'hui Alpine, autant dans la souffrance, l'écurie Alpine, qu'est-ce que ça vous inspire comme,
moi, je peux réagir que mal et déçu.
Ouais.
Parce que, bon, moi, c'était Renault, mais Alpine, c'est Renault,
ouais,
et tout.
C'est la même maison. Ouais.
Je ne comprends pas d'ailleurs pas pourquoi c'est pas toujours
ouais.
Renault-Alpine.
Ouais.
Mais bon, peu importe. Mais ils ne sont pas du tout à leur place. Mmh. Ce qui veut dire qu'en F1, maintenant, c'est la capacité pour moi d'une équipe F1, c'est d'abord de recruter des gens à la pointe. Parce que les gens qui font la voiture, en général, c'est des bons.
Ouais.
Qui font la coque, qui font les suspensions et tout, c'est des bons. Mais si l'ingénieur suspension et aéro donne pas des bons éléments, les pièces sont fabriquées,
ouais, ouais.
elles vont pas marcher.
Ouais, ouais.
Et donc, ils ont... Je pense qu'il ne faut pas un balai, il en faut 5-6.
Il faut carrément.
Voilà, oui. Là où, au point où ils en sont, d'être dernier.
Vous êtes inquiet pour l'avenir de l'équipe ? Vous êtes inquiet pour l'avenir de l'équipe ?
C'est toujours dangereux parce qu'on ne sait jamais ce que le président peut décider d'un moment à un autre. Il dit, attendez, on est ridicule, stop, on arrête. On reprendra peut-être dans 4 ans, dans 3 ans et tout. Le seul truc qui peut les faire continuer, je ne sais pas l'accord avec Liberty, quel est l'accord, s'ils ont encore 2 ans, 3 ans et tout. Après, il y a des dédommagements. Mais bon, je souhaite qu'ils trouvent des solutions surtout. Mais la solution, il faut vraiment s'attaquer maintenant.
Ouais.
Ils ont changé un tas de... Hier, je discutais avec quelqu'un qui connaît bien, un tas de personnes et tout. Ça marche toujours mal, mais encore même plus mal, je dirais, et tout. Donc, il y a un moment, c'est, je vous dis... C'est plus le balai, c'est peut-être la balayeuse avec les disques rotants qui tournent.
En 82, vous étiez 7 pilotes français.
Oui.
Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile, même si on a de beaux représentants.
Mais là, il y a une raison. Il y a vraiment une raison qui est...
Laquelle ?
La raison, c'est qu'on n'a plus d'école de pilotage en France. Il y avait Manicourt, Castellet ici, Nogaro, Le Mans, et il y en avait encore une autre qui était moins à la
chape. Il y avait Volant Elf aussi.
C'était Volant Shell, Elf, Motul, tout à Nogaro. Donc tout ça a disparu. Donc on ne peut plus créer une pépinière, puisque le sport automobile a un gros inconvénient majeur, c'est le coût. Alors moi j'ai fait l'école de pilotage de Manicourt, parce que ça ne coûtait pas cher, avec 2 000-2 500 euros, vous faisiez l'école sur un an, et puis je l'ai gagné. Alors ça m'a donné une petite Formule Renault, un mécano, un box, un camion, et un budget de 20 000 euros pour faire 18 courses. Donc, et après, bien entendu, l'ascension, elle dépend vraiment des résultats que vous obtenez. J'ai gagné le championnat la première année en Formule Renault avec ma Formule Renault. Sur 18 courses, je crois que j'en ai gagné 9. Et en gagnant le championnat, ben ça... C'est une échelle, hein, le sport automobile, comme le sport, tout le sport. À partir du moment où vous gravissez bien le premier échelon, on vous donne l'opportunité de faire le deuxième, troisième et tout. Et ça, c'est terminé, on n'a plus ça.
Il y a la barrière financière qu'il n'y avait pas avant, c'est ça ?
Alors, c'est toujours possible maintenant. Il faut vraiment avoir... Moi, en dehors de mon budget et tout, je me suis... Alors moi, je dis toujours, ce que j'ai fait au début, c'est du pain blanc. Et je ne dis pas que la F1, c'est pain noir, mais en F1, on vous amène, tu veux un croissant, tu veux un pain au chocolat, ça ne te plaît pas. Donc, moi, j'en avais besoin avant de ça. Mais je ne l'avais pas. Enfin, je l'avais, mais ce qui m'a permis... Il y a deux jours, j'ai eu Tico Martini, que je courais pour lui, enfin pour, avec ses voitures, et je lui ai dit, il n'y a qu'une chose que je regrette. Bon, Ferrari me vendait ma voiture à un prix dérisoire en 83, qui était une bonne, très bonne voiture. Et je lui ai dit, il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est pas avoir pu, j'avais pas d'argent, acheter ma Formule Renault de 73 qui m'a permis de faire cette ascension. Parce que il y a une relation amoureuse quoi, avec une voiture comme ça. Et donc, quand j'ai fini ma saison, j'étais râpé. C'est-à-dire que j'avais fait la balance sur 20 courses. Et c'est marrant parce qu'on touchait des primes de 1000 euros, 6500 balles à peu près par course. Comme j'en ai gagné, chaque fois que je gagnais, les 1000 euros, je les remettais tout de suite dans les pneus, dans les moteurs et tout. Et puis on allait chez les commerçants, ça c'est trop drôle. Les commerçants, ils suivaient tous à Manicourt les courses, c'est dingue, ils venaient nous voir tourner et tout. Alors dans le petit village de Saint-Paris, ils me disaient, alors on mangeait des chipolatas, du riz, des pâtes, on n'avait pas beaucoup de sous. Alors ils me disaient, alors on est aujourd'hui, on paye ou on marque? Moi j'ai dit, on marque. Et puis quand j'ai gagné une course, je fais la tournée des popotes, et puis j'en dis, bon, India, ça a gagné, alors on fait quoi? Ah, j'ai dit, je paye. Donc c'est... Ça existe plus.
Oui. C'est
je pense que c'est une bonne formation en plus.
Oui, puis il y a eu une
c'est pour ça que moi je dis, c'est pas du pain noir, c'est du pain blanc. C'est ce que j'aimais et tout. Je conduisais le camion avec mon mécano, on dormait dans la caravane derrière. Et pour moi, c'est pas des sacrifices, mais je vois que les jeunes actuels, ils peuvent appeler ça eux des sacrifices, pas pour moi, mais ils veulent pas les faire.
Parce que la passion était au-dessus de la starification un peu.
Moi, j'aurais fait. Moi, j'ai des moments, je suis resté à côté de voitures très belles. Je me rappelle une GTO dans les rues de Grenoble, après j'ai fait mes études. J'ai attendu 6 heures avant que la propriétaire arrive pour entendre le bruit du moteur. Il faut être un peu allumé, quoi.
Passionné.
Amoureux du sport.
Je suis né avec ça. Et avec ça, j'ai pu le faire. Et puis j'ai aussi cette chance, j'en peux la chance, mais cette possibilité, c'est que j'aime la partie technique. J'ai fait tour, fraisage, ajustage, ingénierie moteur. J'ai travaillé sur des bancs d'essai de moteurs de course. Et j'ai pu allier les deux. C'est-à-dire, toujours voir, quand vous voyez une fabrication chez Renault d'un châssis, d'un moteur, d'une boîte, etc. Pour moi, c'est fabuleux. Donc, j'allais dans l'usine. J'ai même fait des essais aux bancs d'essai. Les bancs d'essai, maintenant, sont plus modernes. Mais on conduisait avec la boîte et tout. Et puis, etc. Et donc, et puis en même temps, je suis monté dedans. Donc, c'était que du bonheur. Comme aujourd'hui.
On vous souhaite de perpétuer ça encore longtemps, René.
Merci.
Merci
infiniment. On va faire un livre, là.
Voilà pour ce superbe entretien, René Arnoux dans Les Pistonnets, René Arnoux avec Brice. Merci Brice pour cette petite pépite que tu nous as ramenée justement du côté du Castellet. Je veux qu'on revienne un petit peu, qu'on la commente, que ce soit pas juste une interview comme ça qui passe et qu'on consomme et qu'on passe à autre chose. J'ai envie d'avoir vos réactions parce qu'il y a plein de sujets qui sont intéressants. Il y a l'âge d'or de la Formule 1, il y a l'avis de René Arnoux sur la Formule 1 actuelle, il y a le regard de René Arnoux qui est pas tendre non plus avec Alpine, on l'a entendu, hein, c'est pas un coup de balai mais 7 coups de balai qu'il faudrait faire dans cette écurie française. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, Hamza, et je viendrai te chercher, Brice, justement, sur les différents aspects.
Au-delà du fond, moi, c'est la facilité. Alors, peut-être aussi parce que l'événement le voulait, mais en fait, je m'imaginais juste aujourd'hui en Formule 1, ta petite caméra, ton petit téléphone.
Ah oui, je suis à l'iPhone.
Tu marches derrière un pilote. Déjà, la difficulté aujourd'hui en Formule 1 pour
de rentrer dans un garage, déjà.
Non, mais déjà d'avoir juste un entretien, même en zoom.
Ah, bien sûr.
Tu vois, on le voit, nous, à notre modèle.
Un an en avance.
Non, mais attends, la vérité,
c'est une folie.
On peut le dire aux gens qui nous regardent. Il y a des gens même qu'on n'a pas fait passer en interview parce que c'est impossible de leur poser ça comme question. C'est impossible de leur parler de tel sujet.
Faut envoyer les questions en avance.
Faut envoyer les questions en avance. Faut qu'elles soient validées. Et nous, parfois, on décide de pas travailler comme ça. Nick De Vries, par exemple, l'interview était sympa qu'on a balancé la dernière fois. On pouvait pas savoir le nombre de trucs qu'on n'avait pas le droit de lui parler. Alors, lui a parlé Formule 1 finalement. Mais voilà, c'est ça qui est toujours un peu compliqué dans ce monde moderne.
Et là, je repense à chaque fois aux Jean-Louis Moncey, aux Jean-Luc Roy quand ils viennent sur le plateau des Pistonnets et que tu les entends souvent avec ce discours. La F1, ça a changé, c'était mieux avant. Mais moi, je l'entends. Mm-hmm. Dans le sens, aujourd'hui, le rapport humain que tu avais avec les pilotes, ce qui se dégage de cet entretien, je pense que Brice a pu avoir un tout petit aperçu de ce qu'était la Formule 1 il y a 50 ans.
En fait, ce qui ressort, c'est que si je viens le voir et que je lui parle, c'est pas de métier à métier, c'est de passion à passion. Mmh. Et je pense qu'en fait, si tu te pointais sur un circuit de Formule 1, c'est que tu étais passionné, donc dans tous les cas, tu allais parler bagnole avec le gars. Et en fait, c'était un rassemblement, la F1. C'était pas un événement.
C'est quoi, je vais te donner un exemple. Si demain, je dis ça, j'y étais pas, donc peut-être que je me trompe totalement, et dites-le moi dans les commentaires. GP Explorer. T'avais Ocon et Gasly lors de la dernière édition.
Oui.
Est-ce que si demain, toi, t'es en gridwalk avec. On est à côté de Pierrot, etc. On parle. T'as Esteban qui est à côté. Ou Pierre, tu sors ton téléphone, on peut discuter un peu.
Ah, c'est compliqué.
Tu penses.
Je suis pas sûr.
C'est compliqué après.
Sur un truc aussi.
Je pense qu'il faut pas tomber non plus dans le déséquilibre de dire c'était mieux avant, on préférait l'esprit d'avant et aujourd'hui les mecs sont chiants
et
dépassionnés. Je pense qu'il y a aussi l'environnement qui a changé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque de René Arnoux. Et la deuxième chose aussi, c'est que peut-être que c'est davantage. Avec la professionnalisation, c'est davantage perçu comme un métier. Tu le vois dans le foot, par exemple, où les pilotes, les joueurs sont un peu moins passionnés par le foot parce qu'aujourd'hui, le foot représente beaucoup plus depuis un jeune âge, avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus de choses. Là, l'anecdote avec la tournée des popotes quand il va régler toutes ses notes, l'anecdote de l'argent aussi, où il explique en fait que t'es beaucoup plus sur un rapport passionnel en fait à ton activité.
Ah oui. Et
ça dépasse le cadre de la Formule 1. Regarde, c'est ce qu'on disait. Depailler, c'était planté en deltaplane. Pironi est mort en bateau offshore. C'est-à-dire qu'en fait, pilote, c'était pas uniquement sur les deux heures du Grand Prix. Pilote, c'était un état d'esprit du lundi au dimanche soir. Quoi.
Mais c'était des passionnés. Enfin, quand je dis ça, c'est con, mais... Quand je dis ça, c'est que tu vivais comme ça et que l'argent n'avait rien à foutre là-dedans. L'argent était un moyen et pas une fin. Que concrètement, s'il n'y avait pas l'argent, on se démerderait. Qu'il y aura toujours un copain pour dire bah attends je te file ça tu me rendras ça enfin et c'est ce que beaucoup de gens regrettent après on dit c'est les vieux cons mais au final ils regrettent ça parce qu'ils ont connu une époque
attaché
où en fait,
à cette époque,
les choses étaient plus faciles dans le sens où elles étaient parfois faites de bon sens et qu'aujourd'hui le bon sens n'est pas suffisant parce que le monde est devenu si gros en termes d'impact de viralité des choses qu'on est obligé de cadrer pour limiter justement l'explosion des fluides quoi. Avant les fluides ils étaient là où ils devaient être entre guillemets et maintenant en fait il y en a tellement de partout et tellement tout le monde cherche à faire bénéficier son propre fluide qu'à un moment donné ça pète de partout et qu'on s'y retrouve plus donc t'es obligé de cadrer parce que si on veut que les choses soient nickel que justement par exemple la F1 soit un business il faut que ce soit contrôlé donc on peut pas dire ce qu'on veut parce que sinon ça va pas faire du bien au business à l'époque on s'en foutait mais faut pas oublier que le business il est né parce que les gens qui étaient passionnés comme ça ont créé quelque chose qui avait pas besoin de normes pour être apprécié
c'était justement parce qu'il n'avait pas de normes qu'il était apprécié
et aujourd'hui on a besoin de ces normes pour maintenir l'appréciation des gens dessus plus ou moins bon escient mais en attendant.
Mais ça veut pas dire, comprenez bien là, dans tout ce qu'on voit.
Oui, c'est pas de la réaction.
On dit pas que c'était mieux avant ou que c'est moins bien.
C'est une époque qu'on n'a pas connue, mais en fait,
tu comprends l'époque à travers
mieux
le
aujourd'hui. Et tu l'as... Quand Jean-Louis Moncey vient dans les pistonnets et te dit, ouais, honnêtement, c'est là, je crois que c'est la première fois qu'il était venu. Je compte pas regarder la saison de F1, par exemple. Je regarderai seulement quelques courses parce que je bosserai pour.
Où les relations sont différentes dans les paddocks.
C'est vrai que pour nous, tu te dis, ok, c'est quand même particulier. Enfin, tu parles d'un mec, une légende dans le journalisme de Formule 1 en France. Mais en fait, moi, je peux comprendre pas le dégoût, j'irai pas jusque-là, mais quand Jean-Luc Roy, il vient et il te dit, ouais, honnêtement, aujourd'hui, je suis très bien à commenter les Grands Prix depuis ma maison, enfin, chez moi, et de pas me rendre sur site parce que ça sert à rien, au final.
Oui.
Tu vas en zone mixte, tout est cadré, tout. Je peux comprendre que quand t'as vécu une pareille période, qu'aujourd'hui, t'as plus la même flamme.
Ouais, et tous te disaient qu'ils mangeaient le soir avec les pilotes, que c'était parfois sous l'initiative des pilotes eux-mêmes, et qu'il n'y avait pas de question de journaliste. Pilote et que du coup il y avait un rapport d'intérêt là-dedans. Il y avait une question de en fait on est tous dans le même cirque, on est des copains et
ouais. potes. C'est Jacques Vendroux qui part en vacances avec Michel Platini et Jean Tigana quoi.
Donc, c'est une autre époque. Encore une fois, enfin c'est là l'interview pour moi, elle dégage simplement le fait de dire voilà venez humer ce que c'était. Vous en ferez votre propre avis parce que la personne qui préfère certainement commencer aujourd'hui, au moins c'est cadré, c'est comme ci comme ça.
Maintenant, voilà comment c'était, et c'est très représentatif aussi d'autres sphères de la société qu'on pouvait avoir en 70-80, par exemple.
Il y a une phrase assez symbolique, c'est quand il dit « j'ai arrêté de regarder la Formule 1, maintenant je regarde le MotoGP », je trouve que ça en dit long sur l'esprit des pilotes qui s'est peut-être un petit peu fourvoyé en Formule 1 et qui reste bien sûr très prégnant.
C'est pas le même, surtout.
En MotoGP, oui, bien sûr.
Ils se reconnaissent pas dans.
Faut pas dire que c'est
moins bien. C'est pas mieux ou moins bien, c'est différent.
Toutes les générations conspuent leur successeur.
Complètement, oui, c'est vrai.
Et mon père me disait
ça. La même avec les prochains qui prendront la relais des pistonnés. Hein.
Mon père me disait, je gueule sur tes réseaux sociaux, mais mon père gueulait sur mes Beatles. Donc, si tu veux, et c'est ça. Hein.
Exactement.
Mais voilà, vous avez de quoi humer ce que c'était, mais moi, ce que j'en ai vraiment retenu, c'est que les yeux dans les yeux, mm-hmm. parce que j'avais le portable comme ça, regarder comme ça, la main comme ça, je vous garantis que la position n'est pas agréable, ça transpire la passion, vraiment.
Un petit point dont il parle, justement, c'est pour aussi... expliquer et décrypter aussi un petit peu ce qu'il a pu dire dans cette interview. Bon, sur Alpine, tout est dit, je crois qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Et en plus de ça, ça a été un fer de lance de chez Renault. Alors, c'était très mal fini chez Renault parce qu'il y avait eu cette rivalité avec Prost. T'as essayé de le lancer d'ailleurs sur le Grand Prix de France 82. Il dit ah oui, ça c'est un bon souvenir, j'avais gagné. Ouais, tu m'étonnes. Il y avait une consigne pour laisser passer Prost qui jouait le titre et il l'avait absolument pas respecté, ce qui avait vraiment été le climax de la brouille entre Arnoux et Prost. D'ailleurs, ils se sont croisés, tu les as vus ensemble dans la même salle
Je les ai vus ensemble. Ouais. Sur la même photo, sur le même truc, mais
éloigné quoi.
Rosberg, Lewis. Non, mais je dis, je sais plus ce que je dis. Je dis à un truc à un moment donné, 82, ici, il y a Alain.
Ouais, oui, ça, oui, c'est ça.
Ah, bah, 82, grand souvenir, trois pilotes français sur le podium.
Ouais. Ouais, c'est ça, oui, voilà, c'est ça, un peu. Lui aussi, il fait un peu quand même le discours convenu.
Ah, comme quoi, tu vois, c'est aussi différent.
Il n'avait pas oublié, hein,
mais sélection des événements, sélection des choses à mettre en avant.
C'est exactement ça. Mine de rien, il faut profiter aussi également de ces témoignages. On sort d'une année, je suis désolé de le rappeler, mais on a perdu Philippe Streff et Patrick Tambay, notamment. Donc, c'est quand même des garçons qui sont la mémoire aussi également d'une discipline qui nous passionne. Et je voulais revenir sur un point qui a peut-être pu paraître peu clair, et ce sera le dernier point d'ailleurs sur lequel on partira, qui a pu paraître peu clair pour les gens qui nous regardent, les plus jeunes notamment. Il parle d'école de pilotage. Il dit à l'époque, il y avait une école de pilotage au Mans, il y avait une école de pilotage à Magny-Cours, il y en avait une au Castellet, bref, et il fait la tournée des popotes comme ça. Ce qu'il faut voir, parce qu'on en a beaucoup parlé nous en antenne, c'est pas forcément un pénalty vis-à-vis de la Fédération Française de Sport Automobile, comme quoi il n'y a pas plus d'école de pilotage.
Justement, ils ont été obligés de le refaire, eux.
Exactement, c'est eux qui sont venus compenser parce qu'il y a eu un manque. On rappelle que René Arnoux a fait, par exemple, ce qu'on appelait la filière Shell. C'était une école, en fait, où au mérite, on passait un concours de pilotage, on apprenait à piloter, on apprenait à se former en tant qu'homme aussi également à côté du pilotage. Et derrière... on décrochait la grande timbale, le meilleur décrochait la timbale et récupérait un financement qui lui permettait justement de financer la suite de sa carrière en vue d'arriver en Formule 1. Alain Prost est passé aussi également par ses filières. Il y avait la filière Elf, la filière Motul, je crois qu'il en parle aussi également. C'est vrai qu'on est quand même, quand il explique tout ça, on se dit que la Fédération Française de Sport Automobile paraît bien seule dans l'accompagnement justement de nos talents en France. Parce que nos pilotes ont du talent. Quand on regarde en Formule 1, on a des pilotes français qui ont du talent. Mais alors quand on regarde dans les autres disciplines, je suis désolé, moi je regarde un peu de Formule E aujourd'hui, je regarde la Formula One Academy, je regarde du WEC, je regarde même de l'IndyCar. On a vu Théo Pourchaire, désolé, hein, mais défrayer un petit peu la chronique justement dimanche soir. Il y a quand même une sève de pilotes en France. On parle souvent des Britanniques, mais en France, on a du cador quand même.
Il y a du talent absolument partout. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de l'argent partout.
Et que ces écoles, on a du mal à promouvoir.
Et que ces écoles-là te permettaient de faire, d'avoir une tentative pour un budget qui était raisonnable. Cher quand même, ça reste du sport automobile. Mais en fait, ça avait des structures qui étaient accompagnées par des grosses marques, comme tu l'as dit. Certainement de façon étatique aussi.
Ah, parce clairement.
Elf était pas sur le tour anti-pétrole.
Elf était nationale.
Donc,
hein.
Voilà. Mmh. Donc il y avait cet accompagnement-là. Et réécouter l'interview, écouter les sommes dont René Arnoux parle pour faire des courses. C'est des sommes aujourd'hui qu'on retrouve en karting.
T'as raison.
Lui, il parle de ça en Formule Renault. Mmh. Donc, évidemment que 7 Français à l'époque sur la grille, c'est 7 Français qui en fait ont eu le droit et l'opportunité, parce que sans barrière financière à l'entrée, ou tout du moins une barrière beaucoup moins haute, de se montrer et justement d'avoir leur chance. Parce qu'au final, il y avait aussi un énorme turnover à l'époque. Il y a beaucoup moins de turnover à l'heure actuelle. À l'époque, il y a un nombre de pilotes qui ont un Grand Prix, 3 Grands Prix, 4 Grands Prix. Parce que en fait, tout le monde a eu sa chance sur quelque chose. Et au final, un très grand pilote peut-être
parce que je roulais beaucoup plus
aujourd'hui qui est commercial mais... parce qu'il n'a pas eu l'occasion quand il était gamin et qu'aujourd'hui être pilote de Formule 1 c'est un plan de carrière que tu décides limite il est presque à 8 ans presque à 9 ans quand tu regardes les fiches Wikipédia de ces pilotes là
oui, c'est vrai 6 ans dans un kart.
Alain Prost il était destiné à être quoi?
Joueur de foot ou médecin.
Et c'est pour ça faut quand même connaître l'anecdote. C'est pour faire plaisir à son frère qui je crois à une maladie, ouais, qu'il a décidé de rouler avec lui sur un circuit de karting. Et à partir de là, je crois qu'il avait le bras dans le plâtre et il bat tout le monde alors qu'il a le bras dans le plâtre. Et à partir de là, il se dit ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça donne un quadruple champion du monde français. Si aujourd'hui on avait autant d'accessibilité au sport automobile, je sais bien que c'est pas possible parce que les machines coûtent cher. Que à d'autres sports, bah en fait, ça se trouve, la France rayonnerait davantage. Aujourd'hui, quand tu regardes la grille, Max Verstappen, fils de pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, le père qui a eu besoin de faire 3 jobs, tout vendre, tout hypothéquer pour que le pilote arrive parce qu'il savait que son fils était extraordinaire. Lance Stroll, fils de milliardaire. Lando Norris, fils de grand.
Milliardaire aussi. Hein.
Je sais pas si c'est milliardaire Adam Norris.
Si, t'inquiète, c'est la plus grosse fortune de milliardaire.
Et ça, en fait. Bah, tu en as c'est la moitié de la grille. Il te reste quoi, Alonso
qui est oui, comme ça. T'as Ocon, Tsunoda, Alonso, Hamilton.
Honda qui finance. Ouais, bien sûr. T'as Ocon, effectivement.
Mais moi, ça me dérange pas qu'Honda finance. Hein. Tu vois, Toyota oui. A une école, par exemple, mais où tu rentres à 12 ans, ils t'apprennent les choses. Il y a concours à 15 ans, il y en a un qui prend un timbal.
J'ai l'impression que
généralement, ils vont en F1. Oui. C'était le cas de Kobayashi.
Mais tu as besoin de sacrifices monstrueux, ce qui n'est pas le cas d'autres sports. Ça devrait pouvoir être un métier que tu fais parce que ton talent et ton travail te met en avant. Le dernier en date comme ça, j'ai l'impression que c'est Kubica. Et Ocon, parce que mais Ocon, c'est une famille de sacrifices, vraiment d'énormes sacrifices.
Oui, et puis il y en a un qui réussit pour combien qui se casse la gueule. Parce qu'on n'en parle pas de ceux qui font les mêmes sacrifices qu'Ocon et Hamilton, par exemple, et que tu ne vois jamais percer, et qui, par contre, la suite de leur vie est en pointillé.
Mais tu n'imagines pas le nombre de familles déchirées qu'il y a eu à cause de ça, où le père a tout mis dans la carrière du fils, et qu'au final, ça a ruiné la famille. Et que derrière, en fait, ni le fils. Où la fille ont la carrière qu'il faut et derrière en fait la famille qui avait construit quelque chose a tout perdu, ça il y en a partout et aujourd'hui ça gangrène et aussi tous les pistes de kart par des attitudes de parents absolument insupportables et inadmissibles de parents qui parce qu'il y a eu une manœuvre ou un truc que le gamin finit deuxième, ça met tellement en péril la situation familiale parfois au vu de ce que ça coûte, que t'as des parents qui en viennent aux mains avec des gosses.
À l'effet Mbappé, quoi. C'est le fameux film de notre ami Nico Camsofa.
Exactement.
C'est valable dans beaucoup de sports. Encore une fois, c'est un changement d'époque.
C'est un changement d'époque, mais qui, au final, le sport, on a un ministère qui s'appelle le ministère de la jeunesse et des sports. Ce qui veut bien dire, quand même, que le sport est quelque chose de primordial pour l'éducation, le fait de devenir un adulte, que les valeurs que se transmettent le sport donnent quelque chose. Qu'est-ce que le sport auto aujourd'hui inculque, si ce n'est que. Il faut être riche ou il faut tout sacrifier et il faut faire un énorme pari sur sa vie. Le foot, c'est quelque chose, il y en a beaucoup plus.
Il n'y a pas autant de sommes à engager, on va dire.
Mais les sommes engagées pour le sport automobile font, un, le truc le moins grave à la rigueur, passer à côté de talent. Deux, ceux qui les engagent, s'ils ne réussissent pas, ça peut être la faillite personnelle. Et ça, c'est grave. Donc effectivement, il y a énormément d'industries automobiles en France qui n'investissent plus parce que ce n'est pas bon pour l'image. L'État non plus. Il y a un moment donné où il faudra peut-être arrêter le tout auto-bashing.
Quand tu vends de l'essence, par exemple, de sponsoriser une écurie de cyclisme ou un bateau, un voilier.
Total sponsorise la canne, il ne sponsorise pas le sport automobile. Non.
Aussi, les 24 heures du Mans et
l'énergie.
Ouais, non, les 24 heures du Mans et la Formule 1.
Oui, mais en attendant, on devrait avoir quelque chose pour promouvoir juste, en fait, rien que les pilotes, une école totale. Rien qu'une école totale, c'est quoi ? Ça va pas les tuer en termes de d'image d'avoir une école totale. Enfin bref, je m'emporte, mais c'est un sujet que j'ai tellement vécu quand j'étais gamin, moi, sur les circuits de karting, qu'au final, ce que dit René Arnoux là-dessus, c'est véridique. Il y a un nombre de gamins, en fait, qui n'atteint pas de niveau. Et moi, je connais des gamins qui avaient un niveau qui était normal et qui aujourd'hui sont en bagnole parce que juste c'était dans le budget de toute leur enfance.
Exactement.
C'est tout.
Exactement.
Et je ne prends pas mon cas. Moi, je n'avais pas le niveau, point barre.
Et pas le budget.
Et on aurait pu creuser.
Et on peut faire un parallèle, les gars, avec cette fin de discussion sur le début de discussion qu'on a eu dans le débrief de lundi au sujet du cas Lance Stroll et du côté un peu dépassionné. Mais voilà, en tout cas, c'était important de le faire. Des anciens pilotes, les gars, on y travaille en ce moment. Il y en aura sans doute d'autres en cours de saison. L'idée, c'est qu'aussi les pistonnés aillent chercher les témoignages, justement, de ces gars, de ces messieurs, excusez-moi, qui ont marqué l'histoire et qui font aussi aujourd'hui qu'il y a une certaine certaine histoire de la France en, en Formule 1, en sport automobile. Merci beaucoup les gars, merci d'avoir été avec nous. Petite précision, il y aura très bientôt, là on est en train de le fignoler, le fameux vlog là au Qatar du WEC, avec tu sais, le fameux tour là, en safety car et plein de surprises, plein de choses, du Sébastien Bourdet d'ailleurs que je félicite, qui a gagné en IMSA, en endurance américaine du côté de Long Beach, c'était l'un des grands sujets aussi également du week-end dernier, bref, du Bourdet, du Nick De Vries, du qu'est-ce qu'on a d'autre, Moupolo, ah, voilà, bref. Ça arrive Button. Dans quelques instants. Button, ça sera une, voilà, une interview vraiment dédiée. Pareil qu'on va vous proposer dans les semaines qui viennent parce que c'est très intéressant. Il nous parle aussi bien sûr de la F1 moderne et ça recoupe un peu sur tous les sujets qu'on a pu avoir aujourd'hui. Merci Hamza. Merci Brice. Bonne semaine les amis. À l'écoute bien sûr de FTS. Vous l'avez vu, le foot est de reparti et vous avez plein d'émissions. Donc n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important. C'est dans cette situation et ce moment qu'on a besoin de votre soutien. Bonne journée, bon courage. Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.